2 Thessaloniciens. On va terminer le chapitre 2. Je rappelle que c'est une épître que Paul écrivait à une église, rappelant que c'est une jeune église par défaut, parce que chaque église à qui Paul envoie des lettres, ce sont des jeunes convertis. Donc il envoie des annotations, des commentaires, des avis, des exhortations, justement pour que tous ces jeunes convertis puissent être fondés sur la parole de Dieu, et en même temps, il essaye aussi de régler quelques problèmes qu'il peut y avoir dans une église. Et c'est aussi pour nous l'occasion de voir des points importants, et notamment la semaine dernière, on avait vu là ce verset 13 qui dit à la fois que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi. Et c'est là qu'on avait eu l'occasion d'aborder la question de la prédestination. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous a choisis, donc Dieu choisit des élus et puis les autres tant pis pour eux? Pas seulement ça. Dieu effectivement, dès notre création, dès le moment où ces petites cellules se divisent dans le ventre d'une femme, il y a la volonté de Dieu de sauver l'individu. Nous sommes des prédestinés au salut. Amen. On est fait pour être sauvés. Mais pour accepter ce salut, pour répondre à l'appel de Dieu, alors nous rentrons, comme il est dit par la suite, par la sainteté et par la foi en la vérité. Il y a l'appel de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais c'est à nous de répondre favorablement en vivant dans la sainteté et par la foi. Et ce soir, on va voir encore trois autres leçons qui sont indispensables et qu'on va lire au travers les versets 15, 16 et 17, qu'on va pouvoir lire ensemble du chapitre 2. Pardon, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, c'est-à-dire de vive voix dans la prédication, soit par notre lettre, notamment celle-ci, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. On va voir là trois points essentiels. Le demeurer ferme dans la parole, la nature de Dieu, l'amour de Dieu, et le troisième point qui est la notion des bonnes œuvres. Demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par la parole, par la prédication, soit par les lettres que nous avons actuellement au travers de la Bible. L'importance de la parole de Dieu. Ce livre n'est pas seulement un livre de référence. Ce livre, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut nous dire est dans ce livre. Tout ce que Dieu a voulu dire est dans ce livre. Il n'est pas question de considérer la Bible comme étant un élément dans lequel il y a des bonnes choses à prendre, mais toute cette parole est la parole de Dieu. Et si cette parole est la parole de Dieu, alors c'est la chose la plus importante au monde. C'est la seule chose qui soit véritablement vraie dans ce monde. Pourquoi je suis même obligé de dire véritablement vrai? Parce que nous sommes tellement habitués à des gens qui nous disent c'est vrai, et on apprend des jours après, des mois après ou des années après que c'était faux. C'est vrai! Enfin, ce que je dis c'est vrai, mais Il y a quelques petits aspects que je ne vous ai pas entièrement dit. Non, ce n'est pas une vérité qui est partielle, ou une vérité qui est à compléter, ou une vérité qui est circonstancielle. C'est une vérité vraie. Une vérité qui est inébranlable. Le pasteur peut se tromper, les églises peuvent se tromper, les institutions peuvent se tromper, nos sentiments peuvent nous tromper. Mais une chose est vraie, juste, indestructible, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul, dans cette épître, mais comme tout partout ailleurs, va encourager les disciples à retenir, à garder, à conserver la parole de Dieu telle qu'elle a été communiquée. Il y a un verset qui résume tout cela. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Ça, c'est une référence clé parce qu'elle résume toute la pensée par rapport à notre relation vis-à-vis de la parole de Dieu. Il est écrit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Et c'est vrai, c'est ça la progression du salut. On entend le message de l'évangile, ok, on le reçoit, c'est bien. Dans lequel vous avez persévéré, c'est-à-dire que vous êtes appliqué à mettre en pratique, et par lequel vous êtes sauvé. Alléluia, j'étais sauvé par la parole. Alléluia. Et il insiste, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Mais c'est énorme! Paul est en train de dire, vous avez entendu le message de l'évangile, c'est très bien, vous l'avez reçu, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il va le faire, vous avez été sauvé par cette parole, n'est-ce pas? Oui! Et bien cette parole-là, restez dedans. Ne cherchez pas à vous décaler, ne cherchez pas à sortir, parce que sinon, vous auriez cru en vain. Votre foi qui aurait été placée dans cette parole aurait été inutile, parce que vous sortez de cette parole. Il est tellement important de réaliser que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Plus que les œuvres, plus que les événements, plus que les circonstances, plus que notre compréhension ou notre incompréhension, ce qui est important, c'est de garder la parole telle qu'elle est. Et bien sûr, il y a plein de choses, il y a plein d'interrogations. Depuis que la Bible existe, il y a des théologiens. Parce qu'on essaye de comprendre, de réaliser, de rationaliser les choses. On essaie de s'approprier les choses et de les rabaisser à une nature humaine et à nos circonstances. Mais l'essentiel, c'est de garder la parole telle qu'elle nous a été donnée. Et Jésus l'a dit. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus n'a pas tourné en rond. Vous dites que vous m'aimez, et nous savons que c'est le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et bien si vous m'aimez, garde mes commandements. Et inversement, si vous gardez mes commandements, alors vous êtes véritablement mes amis. Il n'y a pas d'entre-deux. D'ailleurs, tout le monde pense à Dieu. Tout le monde pense que Dieu existe, surtout dans le milieu chrétien. Tout le monde est d'accord pour dire oui, la Bible, c'est bien. Mais quand bien garde la parole de Dieu? Quand bien la garde telle qu'elle est? Entre ceux qui en rajoutent, ceux qui en enlèvent, ceux qui brouillent un peu les pistes. Mais quelle complexité pour l'être humain d'accepter de garder la parole telle qu'elle est. Parce qu'on cherche toujours plutôt à répondre à nos questions individuelles plutôt que de plier, comme dit Job, je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Et cet homme, Job, qui est en pleine souffrance, en pleine remise en question personnelle, de même de Dieu, il va dire ma volonté, je la plie aux paroles de ta bouche. La parole de Dieu, c'est véritablement l'élément essentiel. C'est Jésus qui le dit en Jean chapitre 17, verset 17. Ta parole est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. Récemment, il y avait cette jeune fille qui était venue avec une colle. Elle pensait me coller. Elle m'a dit, Benoît, Qu'est-ce que le diable ne peut pas toucher?
Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que le diable ne peut pas toucher? Alors, je dis, bah...
Comme ça, je te dirais que Dieu ne peut pas... le diable ne peut pas toucher Dieu, c'est la seule chose.
Il dit non, non.
Alors, elle s'amuse avec moi, elle fait un petit pendu. Et en fait, elle disait la Bible. On lui avait dit que le diable ne peut pas toucher la Bible. Alors, une fois qu'elle m'a fait le petit jeu, je lui expliquais qu'effectivement, au contraire, s'il y a bien une chose que le diable cherche à toucher, c'est bien la Bible. Même dans le jardin d'Éden, la Bible à l'époque se résumait en une seule et unique phrase. Vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va, c'était moins épais que là. On se perdait pas dans les chapitres ni dans les versets. Une seule phrase. Et c'est bien sur cette phrase-là que le diable a cherché encore à torpiller. Il n'a même pas cherché à tordre la phrase. Il a juste rajouté, il a juste remplacé un point d'exclamation par un point d'interrogation. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il fallait pas en manger? Dites-moi. T'es bien sûr que c'est ça la parole de Dieu? T'es bien sûr que Dieu a dit ça à toi?
Ah, peut-être qu'il a peut-être pas voulu dire ça en fait. Et le péché est rentré dans le monde.
Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes sauvés. Si vous entendez, si vous recevez, si vous persévérez et si vous retenez jusqu'à la fin la parole de Dieu telle qu'elle vous a été annoncée, sinon vous auriez cru en vain. Que Dieu nous apprenne et que nous nous disciplinions à avoir plus foi dans la parole de Dieu qu'en des enseignements, des commentaires, des avis ou notre propre subjectivité à la parole de Dieu. Que nous traitions la parole de Dieu avec crainte et tremblement. De ne point nous trouver là déviants, emportés à tout vent de doctrine. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui croyaient en ce que Jésus disait. On les trouve en Jean chapitre 12, verset 43. Mais il nous est dit de ces gens-là qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de garder la parole. Même si celle-ci ne nous rend pas populaires, même si celle-ci ne fait pas de nous des hommes illustres. Seigneur, apprends-moi à garder ta parole. Et dans ces temps où la Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura une profusion de faux docteurs, de faux prophètes, où les hommes chercheront à se donner une foule d'enseignants, leur prêchant des choses qui leur sont agréables. Seigneur, s'il te plaît, garde mon cœur. Ne point chercher ce qui me plaît ou ce qui plaît, mais garde-moi d'être sincère et attaché et retenir la parole telle que je l'ai reçue et qui m'a sauvé. Amen. Et après, Paul nous parle de la nature de Dieu. En une seule phrase, il nous parle de l'amour de Dieu, il nous parle de sa grâce, il nous parle de sa consolation, il nous parle de la bonne espérance qu'il nous a donnée, il nous parle de l'affermissement, tout ça en une phrase. Je ne sais pas si lorsque les gens parlent de vous, ils vous disent « Oh là là là, Élie, oh il est rempli d'amour, oh là là, quelle grâce de l'avoir avec moi, oh c'est une vraie consolation, et puis il est là, toujours plein d'espérance, oh et puis quel affermissement il m'apporte, en une seule phrase. » D'ailleurs, quelqu'un me parlerait comme ça, je dirais « Oh là, lui, il me flatte un peu trop, c'est suspect. » Mais là, on n'est pas dans la flatterie. Là, l'apôtre Paul est en train de parler de son Dieu. Non seulement il est en train de parler de son Dieu, mais il est en train de parler de ce que l'on doit vivre avec Dieu. Et s'il y a une chose qui nous dépasse, c'est bien la nature de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 16, nous dit que Dieu est amour. C'est pas que en Dieu il y a de l'amour. C'est que la nature même de Dieu, c'est l'amour. Nous savons pas ce que c'est. Parce que nous sommes des hommes pécheurs dans lesquels on essaye de développer un peu d'amour. Mais foncièrement, notre nature n'est pas l'amour. D'ailleurs, quand on va pas bien, c'est pas l'amour qui ressort le plus chez nous, hein. Mais Dieu est amour. C'est l'essence même. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est stimulé par ce sentiment d'amour. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu pense, tout ce que Dieu initie est chargé d'amour. C'est l'amour qui est le moteur de Dieu. C'est l'amour qui est la force de Dieu. C'est le mobile même de Dieu. Il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas d'abstraction, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a même pas un iota de vengeance ou de quoi que ce soit. Dieu est amour et tout ce qu'il fait est pétri de cela. Beaucoup de gens qui ont fait ce qu'on appelle des morts imminentes, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur corps, ils étaient cliniquement morts, quand ils sont arrivés dans cette présence qu'ils avaient eux-mêmes du mal à définir, en tout cas le point commun, c'est qu'ils disent qu'ils ont ressenti un amour qu'ils n'ont jamais expérimenté ailleurs. Certains disent, même disent que cet amour était comme palpable. C'est plus qu'une personne, c'était une présence. Dieu est amour. Dieu est amour. Dans le Coran, par exemple, il nous est dit que Dieu a 99 noms. Mais dans ces 99 noms, il n'y a pas celui de l'amour. Et pourtant, Paul va nous rappeler que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On peut se targuer d'avoir les plus grands titres, les plus grands honneurs, les plus grands diplômes, les plus grandes expériences. Si je n'ai pas l'amour, mais je ne suis rien. Parce que l'amour, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même de Dieu, c'est l'essence même de la raison d'exister, c'est la source de la vie, c'est le mobile de tout ce qui devrait nous pousser à agir, à parler. L'amour, c'est la base de Dieu, ça doit être la nôtre. Ça doit être le moteur de toute chose. Un amour qui console. Un amour qui encourage, un amour qui affermit, l'amour de Dieu qui inonde nos cœurs de la grâce. L'appel ce soir n'est pas seulement de savoir ces choses-là, mais l'appel c'est de le vivre. Nous pourrions faire plein de sermons qui parle de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Pourtant, la seule chose qui nous convaincra de l'amour de Dieu, c'est cette rencontre. C'est de se laisser remplir, de se laisser toucher. Et ma prière ce soir, c'est que vous puissiez réaliser combien Dieu vous aime. Au moins une seule fois dans votre vie. Et ça change toute une existence. Parce que quand on goûte à l'amour de Dieu dans notre cœur, alors ça nous change de l'intérieur. Pendant trop longtemps, les institutions dites chrétiennes ont cherché à ce que les hommes et les femmes s'attachent à Dieu par la peur. Si tu ne fais pas, tu vas voir, tu seras puni. Et Dieu était devenu, non pas un Dieu qui est amour, mais un Dieu fouettard, un Dieu condamnant, un Dieu qui va être derrière, qui va nous mettre des coups de bâton si on ne fait pas bien. Espérant, en semant la crainte, que les gens obéiraient à Dieu. Mais c'est complètement l'inverse quand on lit l'Évangile. La Bible nous dit qu'au contraire, que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on goûte à l'amour de Dieu, mais ça nous pousse à fléchir le genou devant tant de grâce, tant d'amour, tant d'humilité. Il y a un témoignage que j'ai entendu récemment. C'était un jeune militaire qui faisait son service et il était chrétien. Et on se moquait de lui dans la caserne. On le poussait, on le bousculait. Et un soir qu'il était en train de prier dans la chambre collective, qu'il était là tout seul, les autres copains sont rentrés là, et puis ils se sont commencé à se moquer de lui. Ah, tu pries. Il y en a qui a pris sa Ranger, il a balancé sur lui. Ah, et tous les autres ont commencé à bien rigoler, à se moquer de ce chrétien. Puis ils se sont tous endormis. Et puis au petit matin, le plus vindicatif s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il voit au pied de son lit? Il voit sa paire de Rangers, toute nettoyée, cirée,
lustrée.
Et là, il réalise que c'est la paire de chaussures qu'il a balancée la veille sur ce chrétien.
Et quand il voit ça, il commence à fondre en larmes, à être touché, à se sentir humilié, à sentir le geste d'amour que ce frère lui avait, que ce chrétien lui avait rendu à la place de cette humiliation qu'il a eue.
Et au bruit des sanglots de ce gars-là, les autres ont commencé à se réveiller et dire « Mais qu'est-ce qu'il y a ?»
Il dit « Regardez, la paire de chaussures que j'ai envoyée hier sur la figure du chrétien, il me les a cirées, lustrées, nettoyées. »
Et voyant ce grand gaillard qui hier se moquait de lui, en train de pleurer, demandant pardon à Dieu,
toute la chambrée a commencé aussi à s'humilier et à invoquer le pardon de Dieu. Et à se tourner vers Dieu. Alléluia.
L'amour, c'est l'amour qui touche les cœurs. C'est la parole douce qui brise le roc le plus dur. Et c'est toute l'histoire de l'évangile, la sainteté de Dieu qui nous pousse à reconnaître notre misère. La sainteté de Dieu qui, une fois qu'on l'a réalisée, mais nous pousse à changer nos mauvaises habitudes. La grâce de Dieu qui nous pousse également à être beaucoup plus magnanime à l'égard des autres. Le pardon qui nous pousse à plus d'indulgence. La gentillesse de Dieu qui nous invite à ne plus chercher à blesser. Il y a une très belle parabole, enfin histoire, pardon, en Luc chapitre 7, verset 45. Jésus est invité par un docteur de la loi, très intéressé par les grandes prédications de Jésus, tellement intéressé, époustouflé même, qu'il décide d'inviter Jésus chez lui. Et alors que Jésus est chez lui, effectivement, autour d'un repas certainement agréable, voilà qu'une prostituée débarque dans cette scène et commence à pleurer sur les pieds de Jésus. Non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, des larmes de reconnaissance. Et ça coule tellement, mais elle a envie de rester là, au pied de son maître, auprès de son sauveur, auprès de celui qui l'a pardonné, transformé sa vie. Elle essuie là toutes ses larmes avec ses cheveux, parce qu'elle veut rester là, tellement elle est reconnaissante envers ce que Jésus a fait dans son existence. Et cet homme est offusqué, il dit, mais si cet homme savait de quelle espèce est cette femme, il ne se laisserait pas toucher. Alors Jésus l'interpelle et dit, mais tu sais pourquoi elle pleure, tu sais pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle a beaucoup reçu. Et là, Jésus est en train de donner une grande leçon de foi et spirituelle. Elle dit, ceux à qui ont beaucoup reçu de pardon, ils aiment beaucoup. Mais ceux qui prétendent qu'ils n'ont pas beaucoup à recevoir, alors ils aiment peu. Et c'est complètement vrai. Ma prière ce soir, c'est que vous puissiez réaliser l'immensité de l'amour de Dieu pour vous. Parce qu'à la hauteur que vous réaliserez Dieu, votre vie sera changée, bouleversée. Si vous pensez que Dieu vous aime peu, votre cœur sera peu touché. Si vous pensez que vous avez peu de choses à être pardonné parce que vous vous sentez propre et suffisant, alors vous sentirez que tout vous est indu. Mais puissiez-vous ce soir expérimenter l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Puissiez-vous goûter la grâce de Dieu qui est capable de satisfaire, de combler votre cœur. Puissiez-vous goûter à la consolation de Dieu, celle qui va jusqu'en plus profond, celle qui est capable de guérir les blessures les plus anciennes, la consolation de Dieu qui est comme un baume, qui cicatrise les plaies, celle que les psychiatres, que les autres ne peuvent pas faire, la consolation de Dieu qui fait qu'on peut penser à quelque chose sans plus souffrir, est capable de penser à la chose, mais avec un recul total, que vous puissiez goûter à cette espérance nouvelle que Dieu met dans un cœur lorsqu'on se sait aimé, aimé de Dieu. J'ai eu la chance et la tristesse d'accompagner des personnes dans des situations de deuil, de souffrance, de cris de désarroi. Et de me sentir
complètement impuissant, sans aucun mot à la hauteur. Mais j'ai eu la chance de voir ces mêmes personnes se confier dans le Seigneur et rendre témoignage qu'ils ont goûté à la consolation de Dieu, à la grâce de Dieu, à la restauration de Dieu. Que nous puissions réaliser que l'amour de Dieu n'est pas seulement à prêcher, mais à recevoir et à vivre avec intensité. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous plonger dans cet amour, dans cette rivière abondante.
Et puis, la fin du verset nous invite à considérer les bonnes œuvres et les bonnes paroles. Pensez-vous que vous allez être sauvés par vos bonnes œuvres?
La question est capitale.
Serez-vous sauvés par vos bonnes œuvres et par vos bonnes paroles? Alors il y a un refrain qui est notamment dans l'épître aux Romains, que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Quelle que soit votre loi, évidemment là il parlait aux Juifs, les Juifs qui avaient plus de 600 commandements à observer. Oh, j'ai fait tout ce que la loi me demande. Ah oui, c'est bien. Mais n'empêche que si tu viens vers moi en me demandant comment être sauvé, alors que tu as l'assurance de faire tes 800 commandements ou tes 600 commandements, c'est bien que tu n'as pas l'assurance du salut. Personne ne peut être justifié sur la base de loi, quelle qu'elle soit d'ordre religieuse, moral, spirituel. Oh non, on est chrétien, on n'a plus de loi. Mais oui, mais n'empêche qu'il y a quand même une sorte de petit carcan, de petit schéma d'un bon petit chrétien. Et certains se rassurent comme ça, mais je vais à la messe. J'ai fait toute la confirmation. Même je donne mon argent. Oh ben ça c'est le summum. Nul ne sera justifié par ses œuvres. Même à l'église évangélique. Parce que c'est pas les œuvres, quelles qu'elles soient, quelles que soient nos repères, n'est pas justifié. Beaucoup de gens ont la conception que l'homme sera justifié devant Dieu lorsqu'il passera au jugement. Les bonnes et les mauvaises œuvres seront comme sur une balance. Et plus il y aura de bonnes œuvres, plus la balance penchera dans le côté des bonnes œuvres, et alors on sera sauvé. Mais malheur à moi, si je fais trop de mauvaises actions, alors la balance pencherait de l'autre côté, et alors je serai condamné. Mais c'est complètement aberrant. Quel est le poids d'une bonne œuvre et quel est le poids d'une mauvaise œuvre? Quel est le poids? Et je me souviens de cette conversation avec un musulman qui dit: oui, moi je vais être sauvé parce que je fais des bonnes œuvres, je fais ceci, je fais cela. Je dis, c'est bien, c'est impressionnant, ouais, c'est bien de faire ces choses en tout cas. Mais tu sais, la Bible dit que Dieu ne justifiera personne devant ses... Si, moi je fais des bonnes œuvres. Et puis dans la conversation, il me raconte qu'il va chez les prostituées. Je dis, ah, stop. Et pour ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comme je fais des bonnes œuvres, ça c'est moins grave. Je dis, ah bon, et ça fait combien de kilos une bonne œuvre? Et ça fait combien de kilos une prostituée?
Je sais pas.
Mais oui, parce que si ta prostituée elle est plus lourde que ton billet de 10 euros, t'as intérêt à mettre beaucoup de billets de 10 euros pour rattraper le kilo de ta prostituée. Et là, il commençait à se gratter la tête. Il dit, oui, c'est vrai. Et heureusement qu'on n'est pas évalué sur le poids ou sur la base ou sur la dimension de nos œuvres ou de nos mauvaises œuvres. Parce qu'honnêtement, il y a même des bonnes œuvres que l'on fait, ou certaines bonnes œuvres qui sont faites, seulement pour être bien vu des gens. Alors, est-ce que ces bonnes œuvres sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises parce qu'elles sont animées de mauvaises motivations? Sans compter de toutes les mauvaises œuvres que l'on fait sans le savoir. Et les bonnes œuvres que l'on fait sans le savoir. Mais si elles sont faites sans le savoir, sans intention, alors est-ce qu'elles sont bonnes? Bref, vous comprenez que la logique du jugement sur la base des œuvres, c'est ingérable. Ingérable. Non, non, non. Dieu nous a délivrés du poids des œuvres. Mais rappelez-vous quand même Nul ne sera justifié sur la base des œuvres. Ça, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que personne ne peut se dire « Parce que j'ai fait cela, alors Dieu doit me sauver. Parce que j'ai fait ça, Dieu me doit quelque chose. » Ça, c'est à proscrire de la logique divine. Est-ce à dire que nous ne devons pas faire de bonnes œuvres ? Rappelez-vous la semaine dernière, lorsqu'on parlait de la prédestination, lorsqu'on parlait de ce livre de vie dans lequel le nom de tous les êtres humains sont inscrits. Rappelez-vous qu'on avait vu en Apocalypse chapitre 21 que lorsque nous serons devant Dieu, ce livre sera ouvert. Et si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, nous serons sauvés. Mais il nous est aussi dit que dans ce livre de vie, quand il sera ouvert, il y aura à côté d'autres livres. Et il nous est dit que dans ces livres-là est inscrit tout ce que nous aurons fait. Ça veut bien dire que si nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres justifient notre foi. Nous ne faisons pas les choses pour gagner Dieu, mais parce que notre cœur est à Dieu, alors nous faisons les œuvres. Et si nous ne faisons pas les œuvres, cela montre que le cœur n'est pas au Seigneur. Les œuvres ne sont pas comme des mérites, mais les œuvres justifient notre attachement à Dieu. Comme on disait tout à l'heure, la bonté de Dieu me pousse à la repentance. Donc je vais me repentir, non pas pour essayer de gagner la faveur de Dieu, mais je me repens parce que mon cœur est touché. Parce que c'est la manifestation d'un cœur qui est touché. Si je veux, et si j'aime mon prochain, je ne peux pas me forcer de l'aimer. Si je l'aime, cela est la preuve que l'œuvre de Dieu est déjà dans mon cœur et donc que je suis prêt pour le salut. Nul ne sera justifié par ses œuvres, mais la Bible nous montre bien quand même que nos œuvres révèlent ce que nous sommes. Il nous est parlé des œuvres, il est parlé aussi de quoi dans ce passage-là ? Des paroles. Toute bonne œuvre est bonne parole. Jésus a une parole qui devrait nous faire réfléchir. C'est en Matthieu chapitre 12, verset 37 qu'il a dit « Par tes paroles, tu seras justifié. » Et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que la solution, c'est de devenir muet ? Non ! La solution, c'est de laisser l'amour de Dieu nous transformer de l'intérieur et que cet amour puisse rejaillir de l'extérieur. Mais Jésus n'a pas blagué. Est-ce que nous sommes sauvés par nos bonnes œuvres ? Ben Jésus dit quand même. Est-ce que nous serons sauvés par nos bonnes paroles ? Jésus nous le dit. Jésus nous dit, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tes paroles vont être déterminantes pour ton salut. Si tu parles bien, tes paroles vont justifier. Et si tu parles mal, tes paroles vont aussi te condamner. Parce que la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et quand il parle de cela, Jésus ne parle pas... Il n'est pas en train de stigmatiser, de montrer du doigt les belles paroles qu'on est capable de faire dans les circonstances, à l'église, autour d'un repas avec les inconvertis, où on s'applique à bien parler. Non, 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 non. Dieu, il est là en toute occasion. Il est là aussi quand on est chez nous. Il est là lorsqu'on est dans la voiture. Il est là quand on est au travail. Il est là quand on est dans le magasin. Il est là lorsqu'on est avec notre chef qui nous casse les pieds et qu'on a envie d'étrangler. Il est là lorsqu'on est en train de prendre un petit café avec la petite voisine qui commence à mal parler du voisin et de la voisine. Dieu est là et Dieu entend les paroles. Et par nos paroles, nous nous justifions ou nous condamnons. Nous ne serons jamais sauvés parce qu'on va dire des bonnes paroles. Mais nos paroles, celles qui sortent naturellement de notre être intérieur, celles qui découlent, celles qui sortent de notre bouche, j'ai envie de dire, sans réfléchir, ce qui fait notre vraie personnalité, ce qui fait la vraie source de ce qui sort de notre bouche. Pas celles qui sont conformées, soignées, travaillées. Ça, c'est pas vraiment nous. C'est comme nos actions. Bien sûr, on peut faire des bonnes actions, mais ce qui révèle vraiment nos actions, c'est toute la journée. C'est dans le quotidien. C'est dans l'ordinaire. C'est dans la manière de traiter les gens lorsque nous sommes dans la rue. C'est la manière de traiter la personne au guichet. C'est la personne, c'est la manière dont je vais traiter ma femme, mes enfants, mon collègue. La personne qui est dans la voiture d'en face et qui ne veut pas avancer. C'est ça les bonnes œuvres. C'est notre réaction dans l'ordre naturel.
Et c'est ça que Dieu va relever. Parce que même les pires des criminels sont capables de bonnes œuvres.
Même les pires des criminels sont capables, et même les plus pires des voleurs sont capables de vous faire des grandes phrases pleines de...
On rigolait récemment avec, je crois que c'est avec Kelly, parce que normalement dans les prospectus, on prend des citations de grands auteurs.
Et notamment cette phrase de Victor Hugo qui a dit une Bible dans chaque cabane. Alors ça, on aime bien, oh, vous voyez, Victor Hugo, il a dit qu'il fallait une Bible partout. Vous voyez, Victor Hugo, il a dit ça, alors il faut une Bible dans chaque maison. Victor Hugo, il l'a dit. À part que Victor Hugo, waouh, c'était un homme qui faisait de la magie. Il traitait mal ses femmes parce qu'il en avait plusieurs. Et enfin bref, s'il y a bien un gars qui devait vraiment se repentir et changer de comportement, c'était lui. Alors il a dit une super phrase, alléluia. Mais à côté de ça, c'est le pire exemple que vous ayez à me sortir, quoi. Nous ne serons pas sauvés par nos œuvres, ni par nos paroles. Mais réalisons quand même que nos œuvres et nos paroles nous justifient. Elles parlent. Elles nous sauvent dans la mesure où elles révèlent véritablement notre état de cœur.
Alors que le Seigneur nous aide jusqu'à notre dernier souffle
à garder la parole telle qu'elle nous a été communiquée. Donne-nous de ne point nous laisser embarquer pour quelque motif, quel que soit le motif, à tordre la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous cette humilité, donne-nous cette sagesse, donne-nous cette droiture. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprends pas, mais je ne veux pas déformer ta parole. Je ne veux pas la tordre. Et je veux me laisser enseigner, mais je ne veux pas chercher à déformer ta parole. Seigneur, que toute notre vie nous apprenions à nous renouveler dans l'amour, dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde, dans ton esprit d'espérance, de consolation. Seigneur, viens en profondeur dans ma vie. Et que le Seigneur nous aide jusqu'à notre dernier soupir à l'honorer par des œuvres bonnes et par de bonnes paroles qui puissent communiquer la foi, l'amour, l'espérance, la force à ceux qui nous entourent. Amen.